Les représentants des cinq partis se sont retrouvés autour du préformateur Bart De Wever à la Banque Nationale de Belgique. Au programme de cet entretien, un état des lieux de la situation financière et budgétaire de la Belgique par le gouverneur de cette même institution. On en parle avec Bruno Coleman, économiste et membre de l'Académie Royale de Belgique que Blaise a pu rencontrer.
Bruno Coleman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Alors, les représentants des cinq partis de cette fameuse coalition Arizona, la NVA, le MR, les engagés, Vorreit et le CDNV, se sont retrouvés hier à la Banque Nationale de Belgique. Et au programme, il y avait un état des lieux de la situation financière et budgétaire du pays par le gouverneur de l'institution. Et un point qui a relevé une importance particulière, car l'Europe menace la Belgique d'une procédure de déficit excessif. Alors, pour commencer, Bruno Coleman, ce terme de déficit excessif, nous y reviendrons pour l'expliquer. Mais pour commencer, il fait peur. La situation est-elle si grave que cela?
Voilà, en quelques mots, qu'est-ce que c'est un déficit budgétaire? C'est un excédent de dépenses sur les recettes. Et au niveau européen, ce n'est pas du tout une exception. La plupart des pays sont en déficit budgétaire. Mais les contraintes qui sont liées à l'Union européenne, mais aussi à l'euro, veulent un déficit qui ne dépasse pas 3% de ce qu'on appelle le PIB, c'est-à-dire la richesse nationale créée chaque année. Alors, on est largement au-delà des 3%, et donc la Belgique, comme 10 autres pays européens, a été, on va dire, mentionnée comme étant la cible éventuelle de procédures pour déficit budgétaire excessif. Alors, ça ne veut pas dire du tout qu'il y aurait une amende, encore que théoriquement c'est possible, une sanction à la clé. C'est plutôt une réprimande à ce stade. Mais donc, il est évident que la Belgique va devoir faire des économies pour progressivement, il y a deux trajets, 4 ans et 7 ans, pour revenir dans les clous budgétaires. Et ce qui veut dire qu'il y aurait environ, au cours de la prochaine législature, à peu près 25 milliards d'euros économisés. Donc, c'est à peu près 5 milliards par an. Donc, c'est de l'ordre de 1% du produit intérieur brut. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas non plus gigantesque. Et pourquoi est-ce que, évidemment, alors ça ne veut pas dire du tout que si on fait ces économies, on va réduire l'endettement public et on va réduire le déficit. Non, il va rester simplement à un niveau acceptable. Et donc, mécaniquement, les partis qui sont maintenant en train de former une coalition doivent réfléchir à la façon dont ils vont aborder cette question.
Alors, vous l'avez mentionné, la Belgique n'est pas seule. Il y a un petit peu moins de la moitié des pays européens qui sont dans cette situation. On peut donc rassurer nos auditeurs, la Belgique fait partie des mauvais élèves, mais n'est pas le pire.
Non, pas du tout. Il y a des pays dans des situations bien plus graves, notamment l'Italie. Et puis, il y a aujourd'hui, c'est évidemment une nouveauté depuis cette procédure, une interrogation, c'est de savoir ce que la France va faire. Parce que ce soit l'extrême gauche ou la droite qui dirige, il y aura certainement des dépenses supplémentaires, puisqu'il y a une course maintenant à la surenchère pour attirer les électeurs. Alors, si toutes ces mesures sont mises en œuvre, ça veut dire que ça va plonger les déficits budgétaires français. Et donc, c'est plutôt en France et en Italie que le problème va se poser. Ce qui veut dire que ça ne va pas résoudre le problème de la Belgique, mais qu'on va paraître un problème tout à fait accessoire par rapport à deux grands autres pays de la zone euro.
Comment expliquer aujourd'hui que la Belgique en soit arrivée là? C'est à cause de l'ancienne législature ou c'est un cheminement normal?
Il y a eu des opérations particulières, comme par exemple l'aide lors du Covid. Il y a des dépenses d'armement qui sont supplémentaires. Mais fondamentalement, quand on prend un peu de recul, ce qui crée en Belgique et dans d'autres pays l'augmentation des déficits, c'est en fait le vieillissement de la population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire d'abord qu'une population qui vieillit croît un peu moins, parce que quand on est âgé, on ne va pas acheter des maisons, des voitures, on est donc plus calme dans son comportement d'achat, mais surtout que l'État doit payer des pensions et des soins de santé qui, on le sait, sont concentrés sur la fin de vie des personnes. Et donc, comme nous rentrons maintenant dans ce qu'on appelle le papy ou le mammy boom, c'est-à-dire la transposition de ce qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, qu'on avait appelé un baby boom, mais maintenant au sein des retraités, et qu'en plus les retraités vivent 20 ans de plus qu'après la guerre, on a encore une trentaine d'années devant nous de dépenses sociales extrêmement importantes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le débat politique ne va pas tellement porter sur la réduction du déficit, mais le fait de savoir comment le faire. On voit déjà que deux partis, à savoir les engagés et Vorreuil, ont déjà dit qu'on ne touchait pas aux soins de santé. Ce qui veut dire que ce sera ou de nouveaux impôts, ou un mélange d'un peu tout, mais donc ce ne sera pas un problème simple à régler.
Justement, c'était l'objet de ma prochaine question. Vous mentionniez les 25 milliards, ces fameux 25 milliards. Où est-ce qu'on va les trouver?
Je crois que finalement, il y aura des hausses d'impôts, certainement. On ne peut pas imaginer une minute que malgré les promesses électorales, il n'y en ait pas. Peut-être que ça va tout. Et d'autant plus que des baisses d'impôts ont été promises pour certaines catégories de salariés, comme ceux qui gagnent un peu moins, donc on va devoir bien récupérer cet argent quelque part. Et donc, à mon avis, ce sera comme en Belgique, la moitié en dépenses, la moitié en recettes. Et pour le solde, on va dire qu'on s'attaque comme d'habitude à la fraude fiscale. Et donc, je pense que le gouvernement va devoir, de manière extrêmement sage, trouver un équilibre entre la protection de l'État social et le fait qu'on a des contraintes budgétaires qui sont tout à fait incontestables.
Vous avez également parlé de potentielles sanctions de la part de l'Europe. Quelles pourraient-elles être et la Belgique risque-t-elle de se voir sanctionnée?
Alors, de manière tout à fait rhétorique, on pourrait imaginer des sanctions financières, mais ça n'a bien sûr aucun sens, parce que si on est déjà en déficit budgétaire, on voit pas pourquoi on devrait payer en plus à l'euro encore un peu plus, il nous mettrait encore plus en déficit budgétaire. Donc tout ça paraît tout à fait théorique. Par contre, et d'autant plus qu'on est noyé dans d'autres pays dans des situations plus graves que la nôtre, mais ça veut dire simplement que l'Europe, ben, voilà, tire la sonnette de rappel vers des normes qui progressivement, au cours des prochaines années, vont devoir être retrouver. Mais de nouveau, hein, moi je suis assez sceptique quant au fait qu'on puisse rapidement trouver une solution parce qu'on rentre dans le dur de ce qu'on appelle le vieillissement de la population.
Justement, nos voisins, via l'intermédiaire de leur président Emmanuel Macron, il avait appelé à un réarmement démographique, ce serait la solution.
Alors à moyen terme, évidemment, mais ça veut dire qu'avant d'avoir une population active, qui travaille et produit de la valeur, il faut compter 25 ans, 20 à 25 ans. Pendant ces 20 à 25 ans, bien, il y a des politiques natalistes qui vont être mises en œuvre. Et donc, ça veut dire qu'il y a des dépenses sociales. Par exemple, si le Rassemblement national gagnait les élections en France, ils ont promis des aides fiscales très importantes pour le deuxième enfant, dans le cadre, effectivement, de ce réarmement démographique. Et donc, tout ça va coûter beaucoup d'argent avant d'espérer un jour une croissance supplémentaire. On est très, très, très loin du compte, hein. Donc, ça veut dire que si la France, quel que soit d'ailleurs finalement le trajet suivi par la France, extrême droite, extrême gauche, ou même un centre qu'on appelle maintenant l'arc républicain, gagnait, il y aurait certainement une augmentation du déficit budgétaire.
C'est donc, on l'a vu, c'est la première réunion des cinq partis, c'est le plus gros chantier du prochain gouvernement.
C'est le symptôme d'un chantier, parce qu'on ne peut pas résoudre un problème important de cette nature sans savoir comment, de manière structurée et organisée, on va le résoudre. Et donc, ça veut dire qu'on va passer immanquablement par une réforme fiscale. Il y avait un premier projet qui avait été fait, on s'en souvient, lors de la législature précédente, mais qui avait totalement été écarté par le MR. Bon, est-ce que le MR a changé d'avis ou pas? On ne sait pas, ces gens sont extrêmement versatiles. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir résoudre les choses de manière holistique. On ne va pas pouvoir simplement lever quelques impôts. On doit s'attaquer à une réforme des pensions extrêmement rigoureuse. On doit réformer la fiscalité. On a des problèmes en matière de remédiation environnementale, en matière d'énergie. Et donc, on ne peut pas imaginer que rapidement, on trouve une solution.
On vous sent relativement sceptique, Bruno Coleman.
On me sent rapidement.
On vous sent relativement sceptique par rapport à la situation.
Ben oui, je suis sceptique parce que d'abord j'ai 63 ans et que j'étudie la fiscalité depuis une quarantaine d'années, et donc ça m'a appris à tempérer les joies et les peines, mais surtout parce que la fiscalité, c'est un contrat social qu'un pays se signe avec lui-même. C'est-à-dire que c'est un accord moral qui porte non pas sur les personnes qui vivent maintenant, mais qui porte aussi sur les aînés, les futures générations. Et donc c'est ça qui structure finalement ce qu'on appelle l'État social, la solidarité. Et donc la fiscalité, les pensions, c'est beaucoup plus simplement des mesures techniques, hein. Je le répète, c'est la solidarité intra et aussi intergénérationnelle. Qu'on y pense pour les pensions, finalement, ce sont les travailleurs actifs qui payent pour les retraités. Pourquoi est-ce qu'on paye pour les retraités? Parce que ce sont ces personnes qui ont construit la Belgique avant nous, et donc ils ont légitimement droit à une certaine compensation, comme nous aurons droit à une compensation pour ce qu'on aura produit au moment où nous aurons été actifs. Et donc je ne suis pas sceptique, mais la Belgique est un bateau qui avance lentement, qui rarement met en œuvre des réformes. La seule grande réforme fiscale qui a été mise en œuvre, c'était en 1962, dans le siège de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça prendra du temps. Et je pense que les montants ne sont pas suffisamment importants à régler, ou la situation suffisamment grave, pour qu'on doive faire un bing-bang fiscal ou social.
Bruno Coleman, je rappelle que vous êtes économiste, membre de l'Académie royale de Belgique. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.
Merci beaucoup.